Luc Barbet est ingénieur industriel, membre du Parti Groen et fin observateur de la vie politique belge. Il a été député fédéral, chef de cabinet d'Olivier Deleuze, avec qui il porte la paternité de la loi belge sur la sortie du nucléaire. En 2005, Luc Barbet est auteur de « Kernenergie in de Wetstraat, dissectie van de deals ». Et en 2014, de « La Belgique et la bombe », du rêve atomique au rôle secret dans la prolifération nucléaire. En 2019, il publie la NVA expliquée aux francophones.
Comment comprendre ces victoires électorales de la NVA? Pour ça, il faut regarder d'une part le contexte politique et socio-économique, la société, quel est le contexte, et puis évidemment, comment est-ce que la NVA a pu utiliser, prendre des opportunités dans ce contexte. À la fin, je vais parler aussi de, disons, la Belgique après les élections de 2019, donc de mai 2019, et je vais expliquer 4 scénarios. Mais donc, parlons premièrement du contexte socio-économique et sociétal. Ce qui est important est qu'il y a évidemment différents éléments. Il y a la situation économique en Wallonie. Il y a ce que j'appelle le regard de certains partis politiques et hommes et femmes politiques en Belgique francophone vis-à-vis des Flamands, vis-à-vis de la Flandre. Et puis il y a Bruxelles. Mais donc, commençons avec la Wallonie. Une question qui revient évidemment souvent en Flandre est où est-ce qu'on est dans le redressement économique ? Et donc dans mon livre, je ne vais pas faire ici toute la liste, j'ai fait un relevé des plans de redéploiement et de relance économique depuis les années 70. Et il y en a beaucoup. Il y a Objectif 1, il y a le plan de développement original pour le NO, le plan pour l'emploi en 93, en 2000 contrat d'avenir pour la Wallonie qui a été actualisé et renouvelé, etc. Et donc pendant tout ce temps, il y a donc la Wallonie, la région Wallonne, qui lance de nouveaux plans. Et en Flandre, on dit, ça ne bouge pas beaucoup. Si nous regardons les paramètres socio-économiques, il n'y a pas de vrai redéploiement, pas de relance économique. Et donc, la Wallonie continue à avoir besoin de transferts. En 2005, ça change. Avec le plan Marshall pour la Wallonie, suivi, comme vous savez, du plan Marshall 2.0 et le plan Marshall 4.0. Ça commence à bouger. On voit des indicateurs et des indices intéressants de redéploiement, de relance économique, même si au niveau macro, ça reste assez modeste. Mais disons, depuis 2005, et certainement aussi les dernières années, l'image de la Wallonie en Flandre a changé un peu. Il y a régulièrement des articles très positifs sur l'une ou l'autre entreprise sur des investissements, etc. En même temps, je l'ai déjà dit, mais c'est important de le souligner, si on regarde des indicateurs comme le produit intérieur brut par habitant ou le pouvoir d'achat par région, il reste évidemment une grande différence entre la Flandre et la Wallonie. Et là, la Flandre ne comprend pas bien. Et de temps en temps, ces chiffres au niveau macro sont évidemment utilisés par le mouvement flamand, les nationalistes flamands, la NVA, pour dire il y a un problème socio-économique en Wallonie et comme le redéploiement économique n'avance pas assez, avance lentement, les transferts continuent. Il y a d'ailleurs aussi une comparaison entre la Wallonie et d'autres régions de tradition industrielle, comme le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine, les Asturies, la Cantabrie. Et c'est le Conseil économique et social de la région Wallonne qui fait régulièrement ces comparaisons, notamment en 2005, mais aussi en 2011-2016. Et à chaque fois, on constate que pour une série des indicateurs, la Wallonie traîne, et parfois même la dernière du classement. Et là, on parle de production, donc les chiffres macro en matière d'économie et les chiffres en matière de chômage. la Flandre, disons, la classe politique connaît ces chiffres et se pose la question, tiens, pourquoi est-ce que ça ne bouge pas en Wallonie tant que dans d'autres régions en Europe qui ont, disons, un passé comparable à la Wallonie, là ça bouge, là il y a un redéploiement économique et pas en Wallonie. Pour l'instant, disons, les dernières années, aussi les derniers mois, on en parle peu, mais c'est clair que ça peut revenir après les élections, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Et donc c'est un élément important dans le contexte, qui a été aussi évidemment utilisé par la NVA pour parler de la différence entre la Flandre et la Wallonie qui cumulerait trop de retard au niveau socio-économique. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le PS, le Parti Socialiste, ou Di Rupo, se présente comme un parti qui crée le progrès, ben, en Flandre, il y en a très peu de gens qui le croient, parce qu'ils regardent les chiffres en matière d'économie, en matière de chômage, et se disent, tiens, mais pourquoi, comment expliquer, quoi? C'est pas crédible, quoi. Il y a la perception du Parti Socialiste et de la classe politique wallonne en général, en Flandre, reste chez beaucoup de Flamands. Pas bon, quoi. C'est pas bon. Un autre aspect de la Wallonie qui attire régulièrement l'attention en Flandre, c'est évidemment la gouvernance et les problèmes en matière de gouvernance. On pourrait retourner en 2005 avec l'affaire de la Carolerisienne où plus récent, les dernières années, tout ce qui se passait autour de Publifin. C'est évidemment dramatique pour l'image de la Wallonie, en Wallonie même, certainement aussi en Flandre, où on se dit ça ne s'arrête pas, y a-t-il un système, ça ne va pas quoi. Est-ce que ça veut dire que la classe politique flamande d'un point de vue éthique est meilleure que la classe politique wallonne? Mais pas du tout, ce n'est pas ça. Ça serait trop simple. Hein. Dans le temps, il y a quelques décennies, où il y a le CVP, donc le CDMV entre-temps, mais donc dans cette époque-là, le CVP, avec un tel pouvoir, qu'il y avait aussi de problèmes de corruption et d'abus de pouvoir. Ça reste très difficile pour un parti politique, et ça se voit dans tous les pays. Une fois que tu as beaucoup de pouvoir, c'est difficile à gérer ce pouvoir. Cette puissance, cette capacité de décider d'une façon éthique. Quoi. Mais donc, tous ces scandales des dernières années, c'était évidemment très mauvais pour l'image de la Wallonie et donc, en même temps, aussi un cadeau aux nationalistes flamands. Parlons maintenant de l'image de la Belgique francophone en Flandre, où il y a beaucoup de différences. Pour les uns, c'est positif, pour les autres, c'est négatif. Et il y a aussi beaucoup, disons-le, de l'indifférence en Flandre vis-à-vis de Bruxelles et de la Wallonie, vis-à-vis de la Belgique francophone. Ce qui est, et je le constate chaque fois, si je vais parler à Bruxelles et en Wallonie, ce qui est très sous-estimé, est l'impact d'un parti politique, et je vais citer quelques phrases de son président, premièrement. Si la Flandre était démocratiquement mature pour respecter les droits des gens, les droits essentiels de ses habitants, nous, etc., etc. Autre citation, je suis d'autant plus déterminé que côté flamand, il n'y a jamais, jamais de geste de bonne volonté. Et puis, troisième phrase, les francophones sont tous démocrates, tous donc, pas de doute, et défendent des valeurs essentielles. Moi, je suis un homme exigeant sur le plan de la démocratie. Et donc, ce sont des phrases exprimées par le président de DEFI, Olivier Menguin. Et donc là, il y a évidemment un problème dans le sens que depuis 50 ans, la Flandre entend le FDF dans l'OTAN, maintenant en défi, s'exprimer d'une telle manière, dans le sens qu'une image est créée que du côté flamand, ben, ce sont tous des gens qui ont un problème avec la démocratie et les droits de l'homme, donc pas de nuance, tous. Et du côté francophone, ben, là, ce sont tous des démocrates qui défendent des valeurs essentielles, etc. etc. quoi. Donc la caricature, évidemment. En Flandre, ça passe évidemment très mal et ça a créé et consolidé l'image des francophones qui regardent les Flamands avec un certain dédain. Les gens qui sont un peu plus âgés ont évidemment le souvenir du temps où aussi en Flandre, les élites ou beaucoup d'élites parlaient le français. Et il y avait un problème de manque de respect. Et donc, l'FDF et puis le défi a consolidé, renforcé cette image. Et ça passe évidemment très très mal en Flandre. Autrement dit, défi est une force centrifuge. Une force centrifuge qui s'ignore peut-être, mais pour la NVA et pour le mouvement flamand en général, c'est évidemment génial. Toutes ces phrases assassinent. C'est même un des. Oui, un aspect qui a créé un contexte qui a favorisé le succès de l'NVA. Je me rends bien compte que, du point de vue francophone, c'est évidemment la même chose. Toutes ces attaques de l'NVA et de vivre contre les Bruxellois, contre les Wallons, ça a évidemment aussi pourri le climat, le contexte et aidé certaines partis politiques et certains hommes, femmes politiques à avoir du succès électoral. Donc ce sont un peu les extrêmes qui se renforcent. Mais donc là, je pense qu'il y a un aspect qui est sous-estimé du côté francophone. Nuance importante. C'est vrai que les quatre dernières années, Défi a, disons, diminué fortement, réduit fortement le nombre et, de ses attaques et de ses insultes. Et donc, ça a changé certainement la donne. Et donc là, il y a une évolution positive, probablement parce qu'ils ont compris que d'un point de vue électoral, ce n'est pas très, très rentable. Mais en Flandre, cette grande, disons, oui, césure dans la communication de Défi n'est pas encore perceptible parce que les Flamands, ou la plupart des Flamands, n'ont pas oublié les 40 ans avant, quoi. Deuxième nuance, les jeunes, disons, entre 15 et 20 ans, qui n'ont pas connu de Défi, qui n'ont pas connu les premières années de Défi, pour eux, pour eux, ce n'est pas important. Ils n'ont pas vécu cette période et ça n'a pas d'impact. Bon, j'en profite pour faire une petite parenthèse et vous parler d'un livre très très intéressant, rédigé par Olivier Luminet de l'UCL. Belgique, un état, deux mémoires collectives. Et donc là, il pose toute la question sur est-ce que, ici en Belgique, on a deux mémoires collectives et, bon, ça veut dire quoi alors ? Il y a un scientifique, un professeur flamand qui s'appelle Geert Bulus, qui a lancé il y a une dizaine d'années, qui a plaidé pour un dialogue de mémoire en Belgique. Et il y a eu une réponse intéressante d'une série de chercheurs francophones, dont notamment Olivier Luminet, mais aussi d'autres, qui ont dit « oui, c'est une bonne idée, il faut le faire ». Et ce serait quoi, ce dialogue de mémoire ou de travail de mémoire ? Ce n'est pas une étude d'histoire, c'est plutôt créer un cadre dans lequel des visions divergentes et très diverses du passé peuvent être exprimées, écoutées et reconnues. Donc un travail de mémoire, ça consiste à prêter attention au discours de l'autre, tenir compte de ses interprétations, leur reconnaître une valeur et être prêt, dans une certaine mesure évidemment, à remettre sa propre mémoire collective en question. Et donc, en dehors de toutes les questions institutionnelles sur la Constitution, la loi spéciale, est-ce qu'il faut refédéraliser telle ou telle compétence, ce qui sont des débats importants et intéressants. Moi, je pense que c'est beaucoup plus important d'organiser, les prochaines années, un grand dialogue de mémoire en Belgique, organisé par qui ? Par, disons, un groupe de travail ad hoc, avec des chercheurs, et nous avons l'expertise en Flandre, Bruxelles et en Wallonie, avec des ONG, des assos, des citoyens, évidemment. Ce serait quoi ? Une grande série de groupes de travail, de conférences, d'études. Il y aura évidemment un rôle clé pour les médias, justement pour faire ce travail, pour s'écouter, pour essayer de se comprendre, un travail qui n'a jamais été fait. Sinon, on va continuer à rester dans les clichés, les caricatures. Vous connaissez, hein ? en Flandre, toutes les préjugés, caricatures sur la Bruxelles et la Wallonie, et vice-versa. Ce cadre de caricature est évidemment très intéressant pour un parti nationaliste comme l'NVA, et du côté francophone, pour un parti comme Défi, mais ça ne va pas nous aider à vivre ensemble de façon plus intéressante dans notre pays. Donc, une des grandes propositions dans mon livre, c'est ce dialogue de mémoire. Parlons de Bruxelles. Quelle est l'image de Bruxelles en Flandre? Ben, ça dépend évidemment avec qui vous parlez. Il y a des Flamands qui adorent Bruxelles, la scène culturelle, son patrimoine, les restaurants, etc. Quoi. Il y en a qui détestent, qui ne veulent pas de Bruxelles. Et puis il y en a des gens qui vont travailler peut-être à Bruxelles, mais pour le reste, c'est un peu l'indifférence, quoi. Je pense que si on parlait avec les Wallons, qu'on aurait aussi toute une série de perceptions et d'avis différents, mais en Flandre, ces avis sont exprimés beaucoup plus, et aussi dans la presse. Bon, des scandales des dernières années, comme le SAMU social, n'ont évidemment pas aidé. Et donc, l'image de Bruxelles, en général en Flandre, est plutôt négative. Et maintenant, on va voir avec les nouvelles équipes au niveau communal, dans les 19 villes et communes, des équipes de majorité avec des nouveaux projets, ce que ça va changer. Mais donc ça, pour Bruxelles. Je vais maintenant aborder un autre aspect qui est, selon moi, largement sous-estimé. C'est la chose suivante. Et c'est un élément du contexte politique qui a joué un rôle important dans, l'explication qui explique le succès de l'NVA. Depuis 1988, la Belgique avait des gouvernements de centre-gauche, au minimum dans la perception des Flamands, hein, avec le PS au gouvernement fédéral. Et donc jusqu'en 2010, et puis enfin même 2014, et donc tout ce temps, en Flandre, il y a des gens qui se sont dit « Tiens, mais en Flandre, on vote de centre-droite, et on est gouverné par un gouvernement fédéral qui mène une politique de centre-gauche. Je sais bien que pour certains francophones, la politique des gouvernements, surtout les gouvernements, disons, entre 2003-2010, bof, c'était pas vraiment de centre-gauche, mais en Flandre, la perception est, on vote centre-droite, hein, pour une grande partie. Deux tiers, trois quarts même, et on est gouverné par un gouvernement fédéral de centre-droite. Et évidemment, ça crée des tensions, des frustrations qui sont montées et qui ont été utilisées comme une belle opportunité par l'NVA qui a dit « ben, ça ne va pas, il y a apparemment deux démocraties dans ce pays, la Flandre et la Wallonie ». Il oublie alors Bruxelles, évidemment, pour rendre les choses plus simples, et puis il n'aime pas Bruxelles. Et donc ça, c'est intenable, quoi. La majorité de ce pays, les néerlandophones ont une majorité démographique. Et donc leur voix, le fait qu'ils votent centre-droite, c'est pas visible, ou trop peu visible, au gouvernement fédéral. Et donc en 2010, grande victoire de la NVA, mais... Est-ce qu'on l'NVA ne va pas au gouvernement fédéral? On a le gouvernement avec Elio Di Rupo comme premier ministre, quelqu'un du PS, un Wallon, ce qui passe évidemment très très mal en Flandre auprès des électeurs de l'NVA, mais aussi auprès d'autres électeurs qui se demandent, tiens, le plus grand parti, on n'en tient pas compte ou quoi? Bon. On connaît évidemment la réplique, c'est l'NVA qui ne voulait pas monter au gouvernement fédéral, qui n'a pas participé ou a abandonné les négociations sur la 6e réforme de l'État, etc. Mais donc il n'y a pas uniquement la question sur la responsabilité, mais aussi sur la perception. Et donc en 2010, avec l'arrivée de nouveau un gouvernement de centre-gauche dans la perception de beaucoup de Flamands au gouvernement fédéral, avec un premier ministre PS Wallon, ça s'est très mal passé auprès d'une partie de l'électorat flamand. Autre élément dans le contexte, ça c'est, disons, toute l'importance du VOCA et une série de journalistes, d'économistes. Il y a donc VOCA, qui est donc, un couple des entreprises flamandes. Comme il y a la FEB au niveau fédéral, il y a le VOCA au niveau flamand, qui a une approche très, très flamand, qui a des liens très, très importants avec, avec la NVA. Mais donc, le VOCA et aussi une série de journalistes, chercheurs, économistes et la NVA plaident depuis, surtout depuis 2005, pour des réformes socio-économiques importantes. Pourquoi ? Parce qu'ils disent que, attention, il y a la mondialisation, et donc on risque de perdre de la prospérité, du pouvoir d'achat, et il y a le vieillissement de la population, et là, même impact. Attention, il faut donc des réformes socio-économiques. Il est présent comme de la science exacte. Il y a par exemple en 2005 un groupe de travail qui s'appelle Indewarande, qui publie une étude, Manifeste voor een zelfstandig Vlaanderen in Europa, donc un manifeste pour une Flandre autonome en Europe. Il présente cette étude pas comme une étude nationaliste classique, donc on ne parle pas du pèlerinage de l'Isère, par exemple, pas du tout. Mais c'est comme une étude, un audit d'un grand consultant, mais ici c'est un audit socio-économique de notre pays. Et donc cette étude contient plein de chiffres et ça revient chaque fois à la même chose. En fait, il y a un grand défi, il y a la menace de la mondialisation, il faut donc... mais c'est en même temps une opportunité pour nos entreprises, pour la Flandre. Et donc, il faut des réformes socio-économiques. Et deux, il y a des grandes différences entre la Flandre, d'une part, et la Wallonie, d'autre part, au niveau socio-économique. Et les auteurs du rapport, et puis aussi l'NVA, disent, bof, si la Wallonie veut mener une politique de gauche, qu'elle la fasse. Mais nous, ici en Flandre, nous avons le droit de mener notre politique. Et la Belgique, comme elle a organisé aujourd'hui, d'un point de vue institutionnel, rend impossible que la Flandre mène sa propre politique de droite ou de centre-droite. Et donc, ce modèle belge avec cette démocratie, ça ne fonctionne pas. Et comme ça ne fonctionne pas, ça donne la possibilité aux Wallons de bloquer les Flamands qui veulent, comme on le dit, avancer, faire les réformes socio-économiques pour sauver notre prospérité. Ça explique pour une grande partie le succès de la NVA. La NVA a réussi de faire le lien entre le discours, l'approche nationaliste et le dossier socio-économique. Et là, donc, on ne parle plus de la bataille des perrons d'or, etc., parce que De Wever et la NVA savent très bien que tout ça, ça ne parle qu'à une petite partie de la population, 5-7%, quoi, ou 10 peut-être, mais même pas. Mais si on parle de prospérité, pouvoir d'achat, nos enfants, quel avenir pour nos enfants, là on parle évidemment à quasi tout le monde, quoi. Et donc, de cette manière, et pour la première fois dans l'histoire du mouvement flamand, il y a là un parti politique nationaliste qui sait faire le lien entre le discours nationaliste traditionnel et les enjeux socio-économiques. Évidemment, derrière tout ça, toutes les réformes qui sont proposées par le VOCA, par certains professeurs d'université, journalistes et l'NVA, ont une forte, sont inspirées par le néolibéralisme. Mais là, ils n'en parlent pas trop, parce qu'ils savent que c'est touchy, que c'est risqué d'en parler. Ils le présentent plutôt par de la science exacte, quoi. Voilà, il faut garder notre prospérité, et donc il faut faire ceci et cela. Et donc, je vais l'illustrer avec une phrase d'une interview avec Bart Wever. Il y avait un journaliste qui a posé la question suivante. La Flandre est toujours une des régions les plus riches d'Europe, monsieur De Wever. Réponse De Wever qui résume en fait tout. Oui, c'est vrai, notre économie est forte, mais il y a la dette nationale, la pression fiscale, le vieillissement de la population, la position concurrentielle de nos entreprises. Tout cela est plus qu'inquiétant. Donc, nous sommes inquiets, quoi. Il faut des réformes. Et donc, comme le CDMV, le VLD, le SPA ne réalisent pas ces réformes, Fadir De Wever souvent, il faut un grand parti fort qui n'a pas peur du PS pour faire ces réformes. Et donc, il faut voter pour l'ANVA. Dernier aspect de ce contexte qui a été très favorable pour l'ANVA, et en même temps l'ANVA aussi saisi ces opportunités, c'est évidemment le dossier BHV. Et donc, un autre élément de ce contexte qui a été très favorable pour l'émergence d'un parti nationaliste, il faut dire aussi que l'ANVA a eu la force, l'intelligence et la capacité de saisir ces opportunités. Le dossier Bruxelles-Halle-Vilvoorde et le fameux arrêt de la Cour constitutionnelle en 2003. En 2003, la Cour a dit la réforme des circonscriptions électorales n'est pas conforme à la Constitution, et donc il faut venir avec autre chose. Même si la Cour n'a pas dit qu'il faut scinder l'arrondissement Bruxelles-Halle-Vilvoorde, c'est bien l'interprétation du mouvement flamand et de beaucoup de journalistes dès le début. Et donc, après un certain temps, je pense que tous les Flamands étaient persuadés que la Cour constitutionnelle avait bien décidé qu'il fallait, qu'il faut scinder l'arrondissement électoral Bruxelles-Halle-Vilvoorde. Donc ça, c'était très bien joué de la part du mouvement flamand, très habile quoi. En 2005, il y a des négociations entre partis francophones et néerlandophones pour trouver un accord, mais c'est l'échec, il n'y a pas eu d'accord. Et là, je pense que les partis francophones ont fait une erreur, pour ne pas dire une faute politique, dans le sens, à ce moment-là, il y avait une opportunité pour trouver un accord. Mais on n'a pas trouvé d'accord et le dossier a traîné pendant des années et des années et a aidé à faire gagner premièrement le CDMV avec le terme et après l'ANVA. Pour aboutir finalement à quoi? Parce qu'il y a eu des négociations en 2007, échec aussi, en 2010, échec aussi. Et donc tout le temps, l'ANVA a pu dire « ce pays ne fonctionne pas ». Il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle et on ne peut pas le mettre en œuvre. Ça ne va pas, c'est la minorité qui bloque la majorité. Et là, petite parenthèse sur Jean-Luc Dehaene, qui a dit à un certain moment quelque chose de très important sur le fonctionnement de notre pays. Il y a évidemment la Constitution, mais il y a aussi ce qu'on pourrait appeler un peu le pacte belge, qu'il faut respecter. Si tu ne le respectes pas, tu as de grands ennuis. Ça veut dire quoi le pacte belge? Ça veut dire que la majorité néerlandophone n'impose pas unilatéralement sa volonté. Et donc, il y a par exemple au gouvernement fédéral une parité, il y a des procédures, des lois spéciales, etc. Et deuxième aspect, la minorité ne fait pas abus de son droit de veto. La minorité francophone ne fait pas abus de son droit de veto. Les deux grands principes de notre pacte belge n'ont pas été respectés à cette période. À un certain moment, lors d'un vote en commission de l'intérieur à la Chambre, le 7 novembre 2007, les partis flamands, sauf la députée de Groen, ont voté pour une proposition de loi visant à scinder BHV, sans qu'il y avait un accord avec les francophones. D'un point de vue juridique, ça tenait la route, quoi. Et d'un point de vue règlement de la Chambre, etc. Mais c'était clairement un non-respect du pacte belge, parce que c'était tellement important que de tels dossiers, on discute, on négocie ensemble. Mais du côté francophone, il y a aussi eu des fautes. Hein. Le fait que le dossier a traîné pendant des années, c'est bien l'illustration du fait que les francophones ont utilisé leur droit de veto. Et donc, ça a évidemment aggravé la situation, rendu la situation très difficile. Et pendant toutes ces années, le terme Van Rompuy aussi, avec 3 années perdues, ça a donné l'impression à beaucoup de Flamands que ce pays ne fonctionne plus, on ne respecte pas la jurisprudence, les arrêts de la Cour constitutionnelle. Peut-être qu'elle avait raison s'ils disent qu'il faut qu'on est dans un pays avec une démocratie. L'ANVA a aussi trouvé une bonne réponse à cette problématique, à savoir que l'ANVA a commencé à parler de confédéralisme. Maintenant, d'un point de vue constitutionnel, le confédéralisme, c'est quoi? C'est une collaboration entre 2, 3, 4, 5 pays indépendants qui concluent un accord international et dans lequel on dit on va faire telle et telle chose ensemble. Par exemple, la compétence en matière de défense, affaires étrangères, etc. Quoi. Il y a eu dans le passé des confédérations, par exemple la Serbie, la Monténégro, pendant quelques années, mais donc pour l'instant, en 2019, il n'y a pas de confédération nulle part sur la planète. Il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que bof, ça ne fonctionne pas bien, c'est temporaire, c'est pour quelques années, et puis ça, c'est l'échec, quoi. Mais si l'ANVA parle de confédéralisme, et c'est bien trouvé de leur part, ils ne veulent pas dire ça. En fait, c'est une forme de fédéralisme très, très radical, quoi. Où chacun dans son coin, la Flandre et la Wallonie, fait un peu ce qu'ils veulent et décide ce qu'ils vont faire encore ensemble. Par exemple, défense nationale ou une partie des affaires étrangères. Ils le présentent comme quelque chose de d'efficace et efficient, ça va conduire à une paix communautaire, ben oui, c'est ce qu'ils disent, et c'est plus démocratique, c'est mieux pour le citoyen, ça coûte moins, etc. Hein? Sur leur site web, on pouvait lire des phrases comme « Samen beslissen wat we samen willen doen ». Ben, on va décider ensemble, néerlandophone, flamand et wallon, ce qu'on veut faire encore ensemble. Vous allez peut-être poser la question, mais Bruxelles, pour eux, pour Bruxelles, c'est en fait co-géré par la Flandre et la Wallonie. Et il y a même une sorte de forme de sous-nationalité, même s'ils n'utilisent pas ce terme-là, mais donc pour tout ce qui concerne soins de santé, sécurité sociale, fiscalité, IPP, donc... le Bruxellois devrait choisir entre le système N, néerlandophone, ou le système W de Wallonie. Et le Bruxellois pourrait changer de système après un certain temps. Mais donc, oui, dans la fin, il y aura un système de sous-nationalité avec des citoyens qui vivent dans un contexte politique et administratif flamand et d'autres dans un contexte politique et administratif voilà. Ok, donc ce dossier BHV qui a pourri la vie politique pendant des années a donc été un des éléments du contexte qui a été utilisé par la NVA pour devenir populaire et gagner des élections. Et donc, résumé de cette partie importante sur le contexte, il y a des éléments qui sont là depuis de nombreuses années, même depuis des décennies, comme le fait qu'il y a le contexte socio-économique en Wallonie et tous les problèmes, même s'il y a des éléments de redressement économique les dernières années. Il y a des filles et la manière dont des filles a traité les Flamands pendant des décennies. Autre élément dans le contexte, le fait que depuis 1988, les Flamands ont eu, et les Wallons et francophones aussi, un gouvernement de centre-gauche au niveau fédéral, donc tant que la Flandre vote à plutôt centre-droite. Et donc là, ça a suscité une frustration. Il y a l'élément, il y a le VOCA, le patronat flamand, une grande partie du patronat flamand et des chercheurs, des journalistes qui plaident depuis des années pour des réformes socio-économiques mais qui n'ont pas été réalisées et donc ça aussi a été la cause d'une certaine frustration et puis le fait dont je viens parler, le dossier BHV. Donc tous ces éléments ont créé une frustration auprès de beaucoup de flamands qui ont finalement dit ben, on va voter pour l'NVA parce qu'on veut le changement. Pas parce qu'on veut l'indépendance de la Flandre, ça c'est pas le cas. Et donc en 2010, première grande victoire de la NVA, qui a 28% à la Chambre et 32% au Sénat. Élection locale en 2012, de nouveau une grande victoire pour la NVA, qui entre en majorité dans 110 communes sur les 308 communes flamandes. Donc un tiers des communes flamandes a une majorité, donc depuis 2012, une majorité avec la NVA. Et la NVA obtient 55 bourgmestres et présidents de district et 271 chevets. Donc c'est une victoire électorale énorme. 2014, nouvelle victoire électorale. La NVA a un score de 32,5% à la Chambre et 30,9% au Parlement flamand. Regardons vite l'électorat, d'un point de vue sociologique donc, de la NVA en 2010 et 2014. Il y a des études très intéressantes de la KU Leuven, donc l'université à Leuven, qui ont interviewé 1000 Flamands. Et donc c'était du travail scientifique, des interviews d'une heure. Et donc, déjà en 2010, l'électorat de la NVA, ce n'était pas l'électorat qu'on pensait au moment. Et là, beaucoup de gens se sont trompés, en Flandre comme à Bruxelles et en Wallonie, et moi aussi d'ailleurs. Beaucoup de gens pensaient, bon, les électeurs de la NVA, bon, ils viennent du Vlaams Belang, ou de la liste des Caire, rappelez-vous, liste populiste de droite, et un peu des gens qui sont mécontents, etc. quoi. Non, c'était plus compliqué que ça. Déjà en 2010, bon, un tiers des électeurs avaient déjà voté pour la NVA, ok. Un tiers des électeurs venaient du CD&V, VLD ou SPA. 18% venaient du Vlaams Belang ou de la liste des Caire, et 11% ne savaient plus pour quel parti on avait voté la dernière fois. Mais donc ça veut dire qu'un tiers de ces électeurs venaient du CD&V, VLD ou SPA. Et donc, conclusion de cette étude, la NVA, en 2010 déjà, attire des électeurs dans tous les groupes de population et tous les groupes âge, comme le CVP dans le temps. Et donc, ce n'était pas un parti avec quelques mécontents et électeurs d'extrême droite. Déjà en 2010, la NVA s'est ancrée très très bien dans un électorat très large, du centre-gauche à l'extrême droite. Autre aspect important de cette étude, je vais lire la phrase, la NVA attire davantage d'électeurs titulaires d'un diplôme supérieur ou universitaire et d'électeurs parmi les cadres supérieurs que les autres partis. Que les autres partis. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont diplômés, qui suivent bien les médias et qui ont voté déjà en 2010 et puis en 2014 en âme et en conscience, je vote pour la NVA parce que je veux des réformes, je suis inquiet. Etc, etc. Puis, dernier élément intéressant de cette étude, quelle est la vision de ces électeurs de la NVA sur l'indépendance de la Flandre? Il y a 10% des électeurs qui étaient en faveur de, je vais lire la phrase, l'État belge unitaire doit être rétabli. Donc 10%. Deuxièmement, l'État fédéral belge doit subsister, mais avec davantage de compétences pour l'autorité centrale que maintenant, 4%. La Belgique doit être scindée, 17%. Okay, vous voyez donc que aussi dans l'électorat de la NVA, une partie importante, disons 10%, dit qu'il faut renforcer l'État belge unitaire, et encore quelques pourcents qui dit qu'il faut renforcer le niveau fédéral. Ces chiffres montrent bien que la NVA a pu convaincre des électeurs qui ne veulent pas du tout de l'indépendance de la Flandre de voter pour le parti. Et ce sont des gens qui ont fait des études, qui suivent bien les médias, mais ils se sont dit, nous voulons des réformes, la Belgique ne fonctionne plus, rien ne va plus, les années, les termes, BHV, etc. Et donc, le seul moyen, je vais essayer, je vote pour la NVA. Que disent d'autres études sur les Flamands et l'indépendance de la Flandre? Disons qu'entre 5 et 10% des Flamands sont réellement, vraiment en faveur, demandeurs de l'indépendance de la Flandre. 5 à 10%, c'est donc très très peu. Dans mon livre, j'ai consacré tout un chapitre sur la communication de la NVA et la manière dont ils ont communiqué les 10 dernières années, c'est innovatrice, quoi. C'est innovatrice parce qu'ils font appel et ils utilisent à fond, et d'une façon très, très intelligente, disons, les recommandations et les techniques d'une série de chercheurs et écrivains américains. Notamment Drew Weston, qui a écrit un bouquin très important sur la politique et la communication, qui s'appelle The Political Brain. Puis il y a George Lakoff, peut-être le plus connu en matière de communication et politique, qui explique notamment pourquoi est-ce que des gens, des pauvres aux États-Unis, des pauvres, des Américains pauvres votent pour un milliardaire comme Trump. Il explique ça. Et puis il y a Jonathan Haidt. J'ai pas le temps d'entrer en détail, mais donc soyons bien courants que dans toute cette technique de communication, il y a un système. Il y a un système. C'est très très malin, c'est très très bien construit, et ça explique partiellement le succès d'Alain Véa, pas complètement. Ça serait trop simple. À part cette communication est dans les médias et sur les réseaux sociaux, évidemment, qui sont très, très importants, notamment parce que, quelqu'un comme Theo Franken, avec à peu près 90 000 personnes qui les suivent, il peut facilement bypasser les médias traditionnels et s'adresser directement à ses électeurs, à son public cible, qui vont envoyer ses messages par Twitter ou par Facebook, etc. Donc là, les nouveaux outils des médias sociaux sont vraiment utilisés d'une façon intelligente par la NVA. D'ailleurs, la NVA dispose d'une grande équipe, pense une dizaine de personnes qui s'occupent en plein des réseaux sociaux, pour vous donner une idée. Mais il n'y a pas uniquement ça. La NVA investit aussi beaucoup dans des soirées citoyennes. Des gens comme Theo Franken de Wever, Yann Yambon, ils passent des dizaines de soirées par an pour rencontrer les gens dans les petits villages en Flandre ou dans des villes, etc. Quoi. Donc, pour entrer en contact avec leur électorat et leur électorat potentiel. Donc, c'est les trois, les médias traditionnels, les réseaux sociaux et puis le contact direct avec les gens. Comme clé de succès. Bon, je vous avais dit au début que comment est-ce qu'on peut expliquer le succès électoral d'un parti politique ? Oui, ça dépend du contexte socio-économique et sociétal. Ça dépend aussi évidemment de la force du parti. Est-ce que c'est un parti avec un projet politique bien défini ? Est-ce que ce parti politique a une vision, une équipe de rêve, une stratégie de communication ? Est-ce que ce parti maîtrise les techniques de communication ? Il y a un troisième et dernier élément qui explique le succès ou le manque de succès d'un parti politique aux élections. Ça, c'est évidemment quid des concurrents politiques. Et là, l'NVA a évidemment pu profiter en 2010 comme en 2014 du fait que les concurrents politiques, le CDMV, le VLD, l'SPA, certainement le CDMV, ça n'allait pas bien, quoi. Rappelez-vous, Yves Leterme, il est les trois ans de 2010-2014. Premièrement, Yves Leterme devient premier ministre, il fait des gaffes, ça ne va pas, il y a le dossier BHF, il y a le problème socio-économique, puis démission, puis Herman Van Rompuy qui vient, mais lui il part à l'Europe, et puis Leterme doit revenir. Et donc ça, c'est évidemment toutes ces années, disons, Leterme de mal governo, pour le dire en italien, était du pain béni pour la NVA. Le SPA et la VLD, le Open VLD, mais surtout l'SPA avait aussi des problèmes. Et donc, le succès de l'NVA s'explique aussi partiellement par le fait que la concurrence électorale était très, très faible. Bon, regardons ou parlons un peu maintenant de ce qui se passe avec l'NVA aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans le sens, disons, les deux dernières années. Au moment que, dans la période que la NVA était encore au gouvernement fédéral, ce parti a investi beaucoup dans les réformes socio-économiques, mais, et cela va peut-être vous étonner, mais d'un point de vue flamand, dans le sens qu'on dise les journalistes et certains professeurs d'économie, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas satisfaits. Ce qu'on lit le plus en Flandre, c'est que les réformes socio-économiques du gouvernement Charles Michel, du gouvernement de Charles Michel, ne vont pas aussi loin que nécessaire. C'est évidemment vu par des lunettes néolibérales, mais je pense que c'est important de le dire. Donc la demande du VOCA et de certains experts, des économistes, etc., et de certains journalistes pour aller encore plus loin avec des réformes socio-économiques néolibérales, continue à exister. Okay. Puis, il y a la grande thématique de sécurité, migration et la politique d'asile. Et je vais en parler maintenant et l'illustrer avec un tweet de Bart Bever du fin 6 juin 2015, donc fin 6 juin 2015, qui donne un résumé parfait de leur approche. Je vais lire le tweet. Hannibal at Portas. Barbaarse aanslag in Frankrijk, Grenoble. En dat bewijst de nood aan streng veiligheidsbeleid. Onze waarden blijven beschermen. Donc, c'est un tweet qui date du jour de l'attentat Grenoble par un terroriste. Et donc, on pourrait le traduire comme ça. Hannibal est devant à nos portes, quoi. Il y a une attaque barbare en France. Et ça prouve bien la nécessité d'une politique de sécurité sans concession. Continuer à protéger nos valeurs. Et donc là, depuis début 2015, mais surtout depuis l'été 2015, il y a une nouvelle ligne stratégique qui est développée par l'NVA, ligne qui continue jusqu'à aujourd'hui, mais bon, début 2019, on parle de climat, donc ils sont un peu en difficulté, mais ça c'est une autre histoire. Mais donc en 2015, ils développent cette ligne qu'on pourrait dire le choc des civilisations. Que dit l'NVA ? Il y avait à Grenoble cette attaque barbare et ils n'expliquent pas, mais eux, pendant des années, ils créent la confusion entre des mots comme islam, migration, réfugiés politiques, attaque, terrorisme, insécurité, etc. Ils le font d'une façon très très habile et tellement efficace que maintenant ils ne doivent plus expliquer. Donc, pour une partie d'Electra Flamand, une fois qu'on parle d'islam, ces gens-là pensent à oui, problème de sécurité, menace, notre civilisation est menacée parce que ces gens ne partagent pas nos valeurs. Ok. Autre élément dans ce tweet, Grenoble prouve la nécessité d'une politique de sécurité sans concession. Là, autre élément important, l'NVA crée d'une façon permanente l'image des autres partis politiques. Attention, si vous parlez de politique de sécurité, il faut être ferme, parce que ces terroristes-là, attends, il ne faut pas... Faut pas parler de prévention, quoi. Et ce sont des gens dangereux qui n'hésiteraient pas à nous tuer, nous, nos familles, nos enfants. Et donc, il faut une politique de sécurité ferme. Et les autres partis politiques, ça c'est le message, la communication implicite, bof, là, ils sont trop soft, quoi. Troisième élément dans ce tweet, vous voyez dans un petit tweet, Bart Wever et la NVA réussissent à mettre le cœur de cette communication. Donc ce dernier élément, c'est continuer à protéger nos valeurs. Donc c'est continuer, hein, la NVA se présente comme parti, le seul parti qui a vraiment comme mission, on va protéger nos valeurs, les valeurs des Lumières, les valeurs de l'Europe. Et message implicite de nouveau, les autres partis ne le font pas ou ne font pas assez. Et donc là, et ça c'est oui, toute l'intelligence de Wever, la NVA qui, selon mon avis personnel, menace nos valeurs et notre démocratie. Par exemple, si on voit comment ils traitent la société civile, le fait qu'ils attaquent les recteurs d'université, des ONG, les syndicats, les mutualités, eux, ils ont réussi à se présenter auprès d'une grande partie de l'électorat flamand comme le parti qui défend nos valeurs. Wow, faut le faire. Mais donc, la NVA a mis beaucoup les dernières années, on pense évidemment immédiatement à Theo Franken, sur cet aspect-là, à savoir, la NVA, il y a une menace. Maintenant, ce n'est pas la menace de perdre de la prospérité, du pouvoir d'achat, et donc il faut des réformes socio-économiques. Non, maintenant, l'enjeu est encore plus important. Plus important. L'enjeu, c'est la civilisation européenne, la civilisation occidentale, nos valeurs. Il y a une menace, un danger, à savoir la migration, la demande d'asile, l'islam, etc. Et donc, il faut être ferme. Il faut donc toute une politique en matière de frontières, avec Jan Jambon et Theo Franken, pour défendre le pays, pour reprendre la souveraineté, la prise, le pouvoir sur nos frontières. Exactement comme on va dans d'autres pays. Est-ce que c'est Viktor Orban en Hongrie? Est-ce que c'est Trump aux États-Unis? Des partis d'extrême droite en France, en Allemagne? Ce discours nationaliste sur nous contre les autres, on présente le nous, notre peuple, comme homogène. On partage tous et toutes les mêmes valeurs, les mêmes pensées, la même idéologie. Et tous les autres, hop, ce sont les autres qui sont une menace. Et donc, il faut défendre nos frontières, notre pays, contre les autres. Est-ce que ça veut dire que la NVA, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, est un parti conservateur? Oui et non, d'un point de vue société, oui, c'est un parti conservateur, hein, là, pas de doute. Mais par exemple, si on parle de droits d'homosexuels, là, ben non, pas du tout. Ils sont très progressistes, comme, disons, presque tous les partis en Flandre et en Belgique. Donc, si on parle de, est-ce que c'est là un parti progressiste ou conservateur, il faut premièrement bien définir de quoi on parle. Est-ce que le parti passe comme un parti conservateur en Flandre? Non. Il y a des études et la plupart des Flamands se voient à une image de soi-même comme progressiste. Et la NVA ne passe pas comme un parti conservateur, comme d'autres partis conservateurs en Europe. La NVA a aussi trouvé une réponse très très habile aux attaques que le parti serait raciste. Parce qu'ils ont des mandataires comme Tsuol Demir, ancien secrétaire d'État au niveau fédéral, où ils avaient le premier bourgmestre d'origine alachtone en 2012, Nadia Smenate. Et donc ça, c'est une stratégie. Ils se disent, nous ne sommes pas racistes, parce que nous avons des gens d'origine alachtone sur notre liste qui ont des mandats importants, etc. Mais, ils ajoutent évidemment, ce sont des gens qui ont fait un effort, qui ont appris le néerlandais, éventuellement, s'ils viennent d'un autre pays, et qui respectent nos valeurs, qui sont de nous, qui sont en fait devenus flamands. Et donc, leur message est, ils appellent ça un nationalisme inclusif, mais de fait, c'est une politique d'assimilation. La NVA définit ce que c'est un bon flamand. Et puis, si tu viens comme eux, tu fais partie du club. Sinon, tu ne fais pas partie du club. La NVA est bel et bien un parti nationaliste. Le paradoxe est le suivant. Au moment que la NVA, disons les dernières années, le fait que la NVA est devenue le premier parti en Flandre, ben, la Flandre devient, d'un point de vue, disons, ethnique et linguistique, de moins en moins homogène. Et ça, c'est très peu visible, c'est peu connu à Bruxelles et en Wallonie, mais si on regarde les chiffres, par exemple à Anvers, la moitié de la population est d'origine étrangère. Hein, pour toute la Flandre, le chiffre est de 20%. Mais donc, la Flandre est devenue, depuis quelques années, une région multilingue et multiculturelle, point à la ligne. Avec évidemment le néerlandais comme lingua franca, la langue la plus importante, et la langue dans l'administration, dans la vie politique, etc. Pas de doute, mais d'un point de vue sociologique, la Flandre est de moins en moins homogène. Ça, c'est important à signaler. Je souligne encore un élément dans cette thématique, à savoir que, en même temps, la Flandre est une région où il y a beaucoup de discrimination et sur le marché de l'emploi et sur le marché du logement. La Flandre, je pense la Belgique, mais en général, est plus ou moins le champion, malheureusement le champion en Europe. S'il y a des questions là-dessus, la réponse de la NVA, la technique pour répondre toujours la même chose, transformer un enjeu socio-économique dans un enjeu culturel et un enjeu collectif dans un enjeu individuel. Qu'est-ce que je veux dire? Si on parle de discrimination sur le marché de l'emploi, la réponse de la NVA est, il faut apprendre des langues, il faut faire des efforts, il faut chercher un emploi. Et donc, ce n'est pas la responsabilité du monde politique, de l'administration, d'un gouvernement, du Parlement. Non, non, s'il y a un problème structurelle de discrimination sur le marché de l'emploi, c'est parce que ces gens ne veulent pas apprendre ou pas bien apprendre l'irlandais. Donc c'est un enjeu culturel et individuel. Et ça, ils répètent tout le temps. C'est évidemment pas vrai, parce que si on compare nos chiffres aux chiffres dans d'autres pays, les différences sont tellement grandes qu'il y a bel et bien un problème structurel et une responsabilité à prendre par le gouvernement et le monde politique. Avant de passer au dernier chapitre, je voudrais brièvement parler de quelque chose qui est très important mais peu connu à Bruxelles et en Wallonie, c'est le fait que la NVA n'a pas du tout l'hégémonie culturelle en Flandre. Tout ce que la NVA décide au niveau flamand, au niveau d'une commune, une ville, ou propose est contesté. Sur Twitter, il y a chaque tweet de Théo Frankenhoel par te vivre est contesté, et suscite évidemment un débat très très vif. Il y a des associations comme Hart Boven Hart, il y a toute une série d'autres ONG, associations qui mènent des actions, il y a le Minderheden Forum, il y a des associations et ONG en matière des dossiers de climat ou d'autres dossiers très très actifs qui mènent des actions, etc. Et donc il y a un débat très très vif en Flandre sur tout ce que la NVA propose et décide. Donc il n'y a pas d'hégémonie culturelle de la NVA. Le parti était en 2010, en 2014, le premier parti en Flandre, ça il ne faut pas nier. Mais donc je pense que c'est important de souligner. Je veux terminer avec un petit chapitre sur la Belgique après 2019. Je vais vous présenter 4 scénarios. Pourquoi 4 ? Parce que je veux bien montrer qu'il n'y a pas un scénario. Il y a plusieurs scénarios possibles. Vous allez peut-être dire pourquoi pas un 5e, un 6e. Eh bien, je vous invite à m'envoyer un 5e, 6e, 7e scénario, justement pour alimenter le débat. Le premier scénario, je l'appelle la continuité. Ça veut dire quoi ? Le fédéral s'évapore et les entités fédérées deviennent plus fortes. Les nationalistes flamands réalisent de facto leur agenda, sauf l'indépendance. Bon, ils n'ont pas l'indépendance, mais disons presque. Il y aura finalement une scission de la sécu, pas en une fois, mais dans plusieurs étapes, peut-être sur une période de 10 à 20 ans. Et donc, dans ce scénario continuité, il y aura une nouvelle réforme de l'État, une 7e, et puis une 8e, et puis une 9e, etc. Et à chaque fois, il y aura des grands débats, des tensions, etc. Mais à chaque fois, le niveau fédéral va perdre des compétences, et les entités fédérées, les régions et les communautés deviendront plus fortes. Et finalement, on va arriver à la Belgique comme, oui, au niveau fédéral, une coquille vide, compétence, défense nationale, une partie des affaires étrangères, et c'est ça quoi. Et le CDMV et la NVA auraient finalement réalisé une grande partie de leur agenda. Scénario probable, oui, je pense que c'est même le scénario le plus probable, sauf si les citoyens, la société civile bougent, prennent des initiatives, mènent des actions, etc. Mais donc ça c'est, disons, le scénario, on pourrait dire en anglais, business as usual, tous les 10 ans, 15 ans, il y a une nouvelle réforme de l'État, le fédéral, le niveau fédéral s'évapore, et les entités fédérées deviennent plus fortes. Voilà. Si on ne prend pas d'initiative, je pense que c'est le scénario le plus probable. Deuxième scénario, même chose, mais il n'y aura plus de communauté, donc ce serait la fin de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et on aura 4 régions, la Flandre, Bruxelles, la Wallonie et Oost-Belgien, la communauté région germanophone, qui pourrait aussi demander qu'une autre région exerce certaines compétences. Dans ce scénario, les francophones auraient choisi et auraient fait le choix de mettre fin à la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui n'est pas probable, je pense, à court terme. Mais donc, je l'ai gardé quand même comme région, parce qu'il y a certains, comme vous savez, hommes politiques qui sont demandeurs de cette approche-là. Troisième scénario, la Belgique avec quatre régions fortes, mais aussi un niveau fédéral fort. Et là, c'est difficile à expliquer, mais je pense que c'est important. Un niveau fédéral fort, ça veut dire quoi? La sécurité sociale, très bien ancrée dans la Constitution, et une circonscription unique, une circonscription électorale unique, ce qui veut dire qu'il y aura, pour une partie des députés à la Chambre, une liste avec les mêmes candidats de Virton à Ostende, de Hasselt à Mouscron, ce qui obligerait les partis politiques de tenir compte de toutes les problématiques, de tous les enjeux dans tout le pays. Et donc, c'est le troisième scénario, renforcement du niveau fédéral, mais aussi avec quatre régions fortes. Le quatre scénarios, très peu probable, mais je le signale quand même, c'est effondrement. Il y a un événement extérieur qui menace la Belgique tellement que la Flandre déclare son indépendance. Que pourrait être cet événement externe? Ben, la fin de l'Union européenne, ce qui est très peu probable, mais je l'ai gardé néanmoins. D'ailleurs, ça c'est important à expliquer, l'indépendance de la Flandre est très peu probable parce que tant que l'Union européenne, existe, ça voudrait dire quoi? Se déclarer indépendant, ça c'est assez facile, ok, un vote au Parlement flamand. Mais après ça commence, parce que dans ce scénario, la Belgique et la Wallonie font évidemment se dire, nous restons ensemble à deux, la Belgique, et nous gardons tous les droits que notre pays a. Nous restons membres, États membres de l'Union européenne. La Flandre, qui vient de déclarer son indépendance, devait demander à l'Union européenne son adhésion. Et à ce moment-là, tous les États membres, y compris la Belgique, donc la Wallonie et Bruxelles, pourraient imposer des conditions. Et la Belgique, qui est donc, disons, Bruxelles et la Wallonie, pourrait dire « Ah, ok, la Flandre peut devenir membre de l'Union européenne à condition une phase transitoire de la sécurité sociale avec une solidarité pendant 30 ans, deux, ratification de la Convention cadre protection des minorités, trois, des facilités linguistiques pour les francophones partout en Brabant flamand, quatre, des écoles en français à Gand et Ostende, etc. etc. quoi. Donc, le contraire de ce que le mouvement flamand veut depuis 100 ans, quoi. Et donc ce scénario d'indépendance, et là, la NVA devait vraiment bien compris, c'est très peu probable, justement parce que nous sommes membres de l'Union européenne, et l'Union européenne n'aime pas l'indépendance des régions. On l'a vu d'ailleurs en Catalogne, où l'Union européenne a dit, dès le vote au Parlement catalan, non, nous continuons à travailler avec le gouvernement, disons, à Madrid, point, à la ligne. Mais donc, le message des quatre scénarios est le suivant. Le premier scénario, disons, 6e, 7e, 8e, réforme de l'État, etc., c'est le plus probable, sauf si les gens se bougent. Et là, il y a quelque chose d'important à signaler. La nouvelle génération en Flandre, disons 15-30 ans, pour cette génération, le nationalisme flamand, ça ne parle pas du tout. Ils regardent tous ces dossiers d'une façon très pragmatique. Est-ce que c'est une compétence qui est mieux exercée au niveau fédéral? Eh bien, il faut refédéraliser. Pas de doute. Donc ça, c'est nouveau depuis quelques années. Et une illustration très intéressante est un vote à une AG du CD&V en novembre 2016. Qu'est-ce qui se passait? Les jeunes du CD&V déposent un amendement pour plaider pour une refédéralisation de certaines compétences, à définir plus tard. L'amendement est accepté par 2/3 des gens qui ont voté, et le top du parti n'a pas du tout apprécié, mais bon, c'était un vote, il fallait accepter. Et donc le fait que ces jeunes du CD&V ont déposé cet amendement, qui va contre toutes ces décennies de stratégie nationaliste du CD&V, est évidemment une belle illustration du fait que les jeunes aujourd'hui en Flandre, ils regardent ça ils ont une approche très très pragmatique. Il faut mettre telle compétence à tel niveau, au niveau fédéral, au niveau flamand, au niveau bruxellois, etc. Et donc c'est un niveau. Et donc la question est la suivante, et c'est une question très importante. Est-ce que cette sensibilité de tous ces jeunes flamands, dans cette manière, dans le sens que ces flamands ne veulent pas du tout du nationalisme flamand, est-ce qu'il y aura, est-ce qu'il va naître un certain mouvement, une organisation en Flandre, et peut-être aussi à Bruxelles et en Wallonie, est-ce que les gens vont travailler ensemble et réinventer la Belgique, mener des actions pour mettre fin à cette dynamique communautaire traditionnelle et créer une autre Belgique, quoi. Ça, c'est évidemment la crainte, la grande question. Donc, d'un point de vue sensibilité, avis, là, il y a certainement quelque chose qui a changé en Flandre. La question est, est-ce que ça va et à quel moment devenir visible dans les médias, dans le débat public, parce qu'il y a des acteurs qui se lèvent, un mouvement qui s'organise. Ça, c'est peut-être toute la grande question dans ce débat. Je vous remercie pour votre écoute.
C'était une lecture résumée par Luc Barbet, auteur de « La NVA expliquée aux francophones » et publié par Etopia, le centre d'animation et de recherche en écologie politique.
Merci à toi.